Voici ce que je pense de tout ceci. Je m'efforce de demeurer impartial et je m'en tiens uniquement aux faits.
Les grandes grèves de l'automobile 1982-83.
Chaque travailleur doit avoir le droit de militer et de se syndiquer librement. Il doit pouvoir s'exprimer sur le contenu de son travail. Et en disant cela, je pense à certains conflits avec de grandes firmes, en particulier automobiles.
C'était l'époque des lois Auroux sur l'expression des travailleurs que défendait ici le Premier ministre d'alors, Pierre Mauroy. On parlait de printemps de la dignité. L'industrie automobile, elle, entrait dans son automne, mais n'en avait pas vraiment conscience. PSA comptait par exemple encore 180 000 salariés dans 8 usines Peugeot, 8 usines Talbot, 18 usines Citroën. Trois grandes grèves secouent successivement le groupe à l'atelier de carrosserie de Peugeot Sochaux en octobre 1981, dans l'ensemble de l'usine Citroën Aulnay en mai 82, à Talbot, Poissy, le mois suivant. Ces mouvements qui connaissent un grand écho font de l'OS qui travaille à la chaîne une figure de proue. Or, il se trouve que les OS sont largement des immigrés. Mais en 1982, ils ne sont pas encore présentés de manière systématique comme tels. C'est progressivement qu'ils vont l'être, à la faveur notamment du changement d'axe qui se produit peu après. Les difficultés économiques manquent d'abattre le groupe PSA qui va couper la branche Talbot. À Poissy, le nouveau conflit qui s'ensuit en décembre 1983 est marqué par des traits très différents. Les ateliers sont plus divisés. Il arrive qu'on y crie « les Arabes à la Seine ». Les ouvriers immigrés avaient commencé à s'imaginer un avenir en France. Leurs enfants organisaient cette année-là la marche des beurs. Le rendez-vous sera manqué.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Nicolas Hatzfeld, bonjour.
Bonjour.
Qui publie un article sur ces grandes grèves de l'industrie automobile dans le numéro de février de la revue Alternatives économiques. Je vais vous présenter comme professeur à l'université d'Evry. Quand même, il faut dire que vous avez travaillé en usine et plus d'une fois, la chaîne par le bas.
Oui, oui, une première fois quand j'avais 20 ans, une deuxième à 45 ans pour... repenser les choses, et la troisième fois, il y a 2 ans, comme un adieu.
Et toujours au même endroit, Peugeot, Sochaux, Montbéliard, là vous faisiez vieux la fois dernière.
Voilà, j'étais l'ancien parce que ces ouvriers avaient du respect, mais il n'empêche que voilà, je m'efforçais avec un peu de peine à tenir la cadence.
Mais vous aviez encore le corps assez affûté pour faire quel travail là ? Dernièrement ?
Alors là, je vissais des équipements sur les moteurs qui passaient à raison d'un par minute devant moi, avec des systèmes très sophistiqués que j'essayais de comprendre.
Alors c'est difficile peut-être pour nos auditeurs d'imaginer le professeur de l'université à son poste. C'est difficile d'imaginer ce qu'étaient il y a une génération les usines du groupe PSA. Maintenant, à Sochaux Montbéliard, c'est le Front National qui donne le ton. Et la dernière grande grève qui a eu lieu à Aulnay-Citroën, eh ben c'était au motif de la fermeture prochaine de l'endroit.
Une C3 grise, c'est le tout dernier véhicule sorti ce matin de l'usine d'Aulnay. Un symbole au goût amer pour la centaine de salariés encore présents sur le site. En réalité, cette voiture est terminée depuis longtemps. Car selon eux, cela fait des mois que la production est arrêtée.
Il n'y a plus rien. Il y avait quelques voitures là, mais depuis le mois de janvier, il n'y a plus de production.
Et il y avait des pièces, il y avait tout ça. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien.
Des ateliers déserts, la fin d'une histoire commencée il y a 40 ans.
Cette usine d'Aulnay, c'est l'usine la plus moderne d'Europe. Elle n'est pas encore achevée, mais elle fabrique déjà la CX, le nouveau modèle qui se vend bien.
La DS, la X sortent aussi de ces chaînes de montage. Jusqu'à 418 000 voitures produites chaque année.
Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous.
Cette histoire d'Aulnay commence en fait en face du studio où nous sommes.
Oui, à peu près. C'est là que Citroën s'est mis à développer ces grandes chaînes qu'il présentait à tous les journalistes de France comme l'idéal industriel et l'idéal de travail.
Et Aulnay, c'est 170 hectares de terrain qui, à l'époque où s'installe l'usine, sont complètement à l'écart entre autoroute et voie ferrée, et maintenant dans une position de centralité dans la grande métropole parisienne.
Oui, parce que Roissy a changé le dispositif territorial et cet endroit devient un endroit extrêmement intéressant alors que c'était pensé pour être un bout du monde.
Alors non sans nous souvenir de Peugeot Sochaux, à quoi vous êtes très attaché, on alternera entre Citroën Aulnay et Talbot Poissy. Talbot Poissy, il faut penser que c'est... En 1980-81, 16 000 ouvriers encore.
Oui, c'est énorme et ça a été encore plus énorme 10 ans plus tôt où ça a atteint 27 000 ouvriers dans les années 70.
C'est un même groupe depuis le début des années 70, la PSA, qu'est-ce qu'il y a dans PSA ?
Depuis la fin des années 70, c'est-à-dire que Peugeot a racheté Citroën en 74, un peu à cause des grosses difficultés de Citroën, et en 78... Chrysler, Simca Chrysler.
Ouais. Et Talbot, c'est le nouvel avatar.
Voilà, il a donné le contrat. Le contrat voulait que le nom de Chrysler ne soit pas conservé.
Nous allons diffuser au long de cette émission nombre d'extraits d'un film de Claude Blanchet qui a été tourné chez Citroën en 1982 et qui s'appelle Aya et dont les héros, alors on va revenir à ce mot clé, un peu oublié aujourd'hui, sont des OS.
Je travaille au montage.
Au montage ?
Oui, c'est tout.
Quelle voiture vous montez ?
CX.
La CX ?
Oui.
Et vous êtes payé combien ?
Ah, 4 000, 3 900. 22 ans à la maison.
22 ans de maison, ouais. 3 900 francs par mois. Quelle qualification vous avez ?
OS.
J'ai réglé la machine de la peinture.
Vous étiez régleur ?
Non. J'ai travaillé sur la place la régleur. Je suis un ouvrier, je me paye comme manœuvre. J'ai remplacé sur la régleur, la poste la régleur.
Vous remplaciez un régleur, mais vous étiez qualification OS.
Oui.
Pour le même travail, il y a des différences de salaire.
Bah oui, c'est le même travail.
Alors, régleur, monteur, vous étiez visseur, vous, ça existe, ça, dans la classification ?
Non,
c'est pas un OS, un visseur, c'est quoi ? Un agent de fabrication,
voilà,
aujourd'hui ?
C'est à peu près ça, les qualifications... Enfin, les vocabulaires changent, hein, puisque depuis 30 ans, on évite beaucoup le terme d'ouvrier d'abord, et d'ouvrier spécialisé encore plus. Les activités changent techniquement, mais là, on a toute une série de vocabulaires, avec régleur, et l'ouvrier corrige le journaliste en disant non, pas régleur, parce que régleur, c'est une fonction hiérarchique, c'est le sous-chef. Donc il n'est pas sous-chef et il le sait très bien, et donc même s'il lui arrive de régler les machines. Et à un moment, il dit aussi manœuvre. Manœuvre, OS, et quelque chose d'intéressant, c'est le fait qu'il dit OS, c'est-à-dire rien du tout. Et ça dit assez bien le sentiment de tous ces ouvriers de fabrication. Quand on est en fabrication, sur un poste étroitement délimité, on a l'impression de ne pas faire quelque chose de très valorisant. On n'a pas une activité valorisante. C'est quelque chose qui a été inventé d'ailleurs à peu près à l'époque de l'usine de Javel, quand, à l'occasion de la guerre de 14-18, les patrons ont décidé de remplacer les ouvriers professionnels partis au front par des femmes qu'il ne fallait surtout pas payer au tarif des hommes, donc il ne fallait pas leur apprendre un métier. Et c'est à cette occasion que la catégorie ouvrier spécialisé a été mise au point. Et depuis, elle a prospéré gaillardement.
Enfin, aujourd'hui, on utilise, vous l'avez dit, beaucoup moins le terme. Quand vous êtes dernièrement à Peugeot Sochaux, agent de fabrication, vous êtes tout de même à la chaîne. C'est oui. Ça qui est important, en fait.
Voilà. Pour beaucoup, ce qui est finalement le plus important, c'est est-ce qu'on est à la chaîne ? Et même, il y a un terme qui est encore plus important, c'est celui d'être en poste. Quand on dit qu'on est en poste, ça veut dire qu'on est contraint. On est dans une activité qui est contrainte par ce qui nous arrive à gauche et ce qu'on doit transmettre à droite, d'une certaine façon. Et c'est ça qui fait l'impossibilité de se déplacer, de circuler, la cadence étroitement imposée et une gamme d'activités assez étroite.
Mais la contrainte chez Citroën, et plus encore peut-être chez Talbot, parce que le modèle Simca est la matrice de ce système de contrôle, elle vient aussi de certaines méthodes de maintien de l'ordre.
Celui qui n'est pas de carte CCL il connaît pas l'augmentation. Hein.
Il faut être mouchard, il faut moucharder les gens, il faut aller voir votre chef pour lui dire voilà ce monsieur-là, il part de la CGT tout. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé avant. On ne peut pas serrer la main avec un délégué de la CGT.
Tu ne fais pas la carte, il ne passe pas.
Quelle carte?
Carte de social. Social.
Vous en connaissez qui ont pris la carte et qui ont fait de la formation?
Moi, j'y vis.
Moi, l'agent, c'est ça.
Il
m'a dit de ne pas voter.
Oui. Pour les élections professionnelles?
Voilà.
Vous n'avez pas pu voter?
Non. Parce que je n'ai pas la carte de CSL. J'ai jamais pris la carte
de CSL. Ils vous l'ont demandé de la prendre?
Oui, oui, le chef d'atelier m'a demandé.
Et en plus, le jour de vote, quand les gens ils vont voter, le chef il vient vous voir et vous donner un bulletin. C'est le chef et le contremaître.
Vous parlez des bulletins de la CSL, là?
Voilà, c'est ça. Ils distribuent aux ouvriers. Ils disent, voilà, tu amènes celle-là, tu mets dans l'enveloppe et tu nous amènes les autres. Et si tu ne l'amènes pas, alors ils vont se balader partout pour essayer de te foutre
la porte. C'est-à-dire les bulletins de la CGT et de la CFDT.
Voilà, c'est ça. Et moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas voté.
CSL, M. Hatzfeld, conférence des confédérations des syndicats libres. Non, ce n'est pas une confédération, puisque ce sont des syndicats corporatistes, maisons dans chacune des marques du groupe.
Oui, mais il n'y a pas que dans le groupe. Il y a d'autres usines dans lesquelles ça se trouve. C'est vrai que l'automobile est le gros bastion. Une partie de la branche automobile est un bastion de ce type de syndicalisme qui est créé au milieu des années 50, vraiment contre la CGT, à Poissy d'ailleurs, enfin chez Simca. Et qui a toutes les particularités du corporatisme, c'est-à-dire que les ressources humaines, le syndicat, les œuvres sociales sont complètement fusionnées, intégrées, et travaillent à côté de la hiérarchie d'autorité classique.
Corporatisme, ça veut dire qu'il y a dans le même syndicat, sans difficulté, des gens qui appartiennent à des degrés différents de la hiérarchie.
Tous les degrés, du cadre supérieur au technicien et à l'OS. Avec les méthodes que l'on a vues.
Mais les œuvres sociales sont assurées par ce syndicat?
Oui, comme dans toutes les entreprises de cette époque-là, le comité d'entreprise gère les œuvres sociales. Là, la grande particularité, c'est que c'est le seul syndicat à peu près. Il existe des syndicats autonomes qui sont tolérés, la CGT non. Quelquefois, elle est clandestine pour survivre, ce qui ramène à une époque de la résistance. Et elle verrouille avec les méthodes qu'on en a très bien entendues là.
Mouchard, Ricard, parce que le Ricard a aussi de l'importance.
Ah oui, ils disent assez souvent qu'il faut rapporter la bouteille de Ricard pour se faire bien voir, payer le verre de Ricard au chef. Et ils le disent avec autant d'insistance qu'il doit y avoir quand même une part de vérité là-dedans. Et puis, ils évoquent aussi des cadeaux qui sont réclamés par les chefs, sans lesquels on n'a pas d'augmentation.
Et tout ça dans un climat politique tendu, parce qu'autour, il y a des villes qui sont anciennement et durablement communistes, comme Aulnay-sous-Bois, fugacement, à l'époque qui nous intéresse, 1980, Poissy.
Oui, oui, et donc ça se vit comme ces entreprises se vivent comme des forteresses. Ceci dit, dans le territoire, à la fin des années 50, Simca se vantait d'avoir 4 députés dans son personnel. Donc il y a aussi un petit peu de...
Des députés
à l'Assemblée nationale.
Gaullistes.
Oui, gaullistes ou paragaullistes, enfin.
Oui, pas gaullistes sociaux.
Voilà.
Ouais.
Voilà.
À Aulnay-sous-Bois, maintenant, le maire est un ancien haut gradé de la police. À Aulnay, l'usine Citroën a fermé. Il faut noter d'ailleurs qu'à Aulnay, jusqu'au bout, le syndicat numéro 1 à Citroën, c'était peut-être un avatar de la CSL, en tout cas un syndicat indépendant. Alors ici, avant qu'on en revienne aux années 82-83, un écho avec le fameux rap de Franck Joti de la fermeture d'Aulnay. Franck Joti, c'est un gars de PSA qui rappe.
Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous.
Tristesse, colère, inquiétude, sacrifice, déprime, malaise.
Ça peut plus durer.
Mépris, mensonge, arrogance, actionnaire, escroc, relâchement.
Ça peut plus durer.
Profit, esclave, stress, chômage, pression, flottement.
Ça peut plus durer.
Vous êtes prêts à aller jusqu'où?
On lâche rien.
Jusqu'au bout.
quand il s'agit d'indemniser. Le lion est un rapace, les émotions s'entrechoquent, on se doit de limiter la casse. On mène plus à la baguette ceux à qui on promet des miettes. Y'a trop de contre-jours sur nos enfants qui déforment leur silhouette. Avare, varin, responsable véreux, il quadruple son salaire et dit que le coût du taf est fiévreux. Aucune usine devrait fermer grâce à l'argent public. L'État ose dire qu'il n'y a pas de secteur privé dans ses rubriques. Y'a de l'inquiétude, menteur d'un jour, menteur toujours. Y'a des larmes et y'a des malaises que n'arrange pas le compte à rebours. On le savait tous, mais c'était pas d'actualité. Et y'a pas plus dangereux qu'un animal qu'on vient de blesser.
PSA a distribué 200 millions de dividendes à ses actionnaires.
PSA, politique au service d'actionnaires. PSA, patron saboteur d'avenir. PSA, politique au service d'actionnaires. PSA, patron saboteur d'avenir.
Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En 2013, Franck Joty disait qu'à Citroën Aulnay, on croisait le monde entier des ouvriers venus d'un peu partout et de tous les âges, des gamins de 18 ans et aussi bien des gars qui avaient 40 ans de boîte et peut-être donc connu la grève de 1982 qui va maintenant nous occuper.
C'est la première fois. Les gens comprennent qu'il faut que ça change chez Citroën aussi. Ça fait des années qu'on les traite vraiment comme des esclaves. Et ça, tous on peut entendre ici, ils le disent.
C'est fini l'esclavage, c'est fini. Si vous restez la main dans la main.
On est des hommes, on n'est pas des esclaves. On refuse pas de travailler, mais on veut être payé et travailler dans la dignité.
On demande le 400 francs d'augmentation, c'est clair.
Et c'est pas normal que l'ouvrier, il a 25 ans et ses deux maisons. Il n'arrive le pauvre même pas à 4000 francs. Et vous connaissez très bien, la vie maintenant, c'est très cher.
Et la liberté syndicale et notre dignité.
Nicolas Hatzfeld est avec nous. Des livres tous recommandables sur l'expérience ouvrière. Je dis l'expérience ouvrière parce que professeur à l'université d'Evry, vous avez été à maintes reprises, plus ou moins longues. Ouvrier vous-même et vous publiez sur les grandes grèves de l'automobile un article dans le numéro de février d'Alternatives économiques. Les revendications alors de 1982, nous sommes au temps. Se souvient-on du printemps de la dignité ?
Oui, c'est un mot un peu bizarre qui n'arrive pas dans tous les mouvements sociaux et dans toutes les grèves. C'est celui qu'à côté de revendications qu'on attend un peu, surtout dans ce genre d'industrie, les cadences. Et puis souvent, ils évoquent la volonté de savoir quelles cadences ils ont et de ne pas avoir une variation de cadence. Et des revendications sur la santé qui sont un peu particulières. Et puis les salaires, qui sont toujours la grosse revendication. Et puis il y a ce volet sur la dignité et liberté. Alors liberté, ça correspond un peu à ce qu'on a vu. Mais la dignité, ça renvoie à, un petit peu à cette obligation de Ricard, un petit peu à, à des formes d'humiliation ressenties par ces immigrés dans les relations ordinaires de travail.
À Sochaux, l'année précédente, c'était l'atelier de carrosserie. Grève bouchon, le reste de la production s'en trouve gêné. Là, Aulnay, Citroën, avril 82, c'est une grève dans tous les ateliers de l'usine. De même, à Talbot-Poissy, le mois suivant.
Pour Poissy, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'à Poissy, certains ateliers dans lesquels on avait des ouvriers professionnels notamment, ne se sont pas vraiment mis en grève. Une partie seulement de l'usine est en grève, celle où travaillent les OS qui sont sur les chaînes notamment, les chaînes de montage. À Citroën, toute l'usine est bloquée.
Alors tout ça, ça a quand même un effet cumulatif. L'opinion s'intéresse beaucoup au sujet. Il y a des figures médiatiques qui émergent. On se souvient peut-être, si on regardait la télévision à cette époque, d'Aka Ghazi, qui ensuite a eu une carrière politique au Maroc.
Oui, parmi ces immigrés chez Citroën comme chez Talbot, les Marocains font... Les immigrés sont eux-mêmes plus de la moitié des ouvriers. Sur les chaînes, ils sont largement les trois quarts. Et parmi ces immigrés dans ces deux usines, on a une majorité de Marocains. Parce que les recruteurs qui ont un côté un peu post-colonial se disent que les Marocains sont plus dociles que les Algériens. Ils vont les chercher. Ils visent des illettrés. Et quelquefois, il y a des faux illettrés, des lycéens du Maroc qui s'abîment les mains pour avoir l'air bien fruste et se faire recruter avec les autres. Et à Kagadzi, est de cela.
Illettré, jamais un responsable politique n'a employé à l'époque, pour désigner les grévistes, le mot illettré.
Oui,
comme aujourd'hui, on voit tel ministre le faire par erreur.
Mais ministre de l'économie, en plus, qui dérape de son territoire de pertinence. Là, l'idée est évoquée dans les analyses qui sont faites sur le coup par les experts qui pointent le problème du manque de formation de façon très très lourde. Donc ils ont le vocabulaire politiquement correct.
Il y a un expert qui est un grand juriste social qui va être le médiateur nommé par le gouvernement, c'est-à-dire l'intérêt que prend le gouvernement au sujet. Il s'appelle Jean-Jacques Dupérou et il dit il faut créer des filières de libération les OS en conditions closes.
Ce qui est extraordinaire, et là, ça indique un aspect de ces grèves. Là, dans ces grèves, ces ouvriers OS immigrés rejoignent en gros le monde ouvrier français et rejoignent le monde social de France. Et c'est un peu comme ça qu'ils vivent la chose.
Donc, il faut faire attention à l'ordre des mots. Vous dites bien ouvrier qui se trouve être immigré, de même qu'un grand leader de la CGT de l'époque, André Saint-Jean, dit « Je refuse personnellement le terme de grève d'immigré ». Cependant, Nicolas Hatzfeld, dès cette grève de 82, aussi bien chez Citroën que chez Talbot, il y a une revendication qu'on n'avait pas vue poindre, peut-être, jusqu'ici, celle des lieux de prière.
أيها المهاجرين عمال سيتروين تفضلوا وانتبهوا جدا فشكرا لكم فيما لا سي جي تي فيما لا ليبرتي
On a demandé que la direction mette à votre disposition un lieu de prière comme ça se fait chez Renault et comme ça se fait chez Simca. La direction pendant toute la matinée et une partie de l'après-midi a dit que c'était pas possible. Ça coûtait trop cher. La direction a obtenu le soutien d'un syndicat qui s'appelle la CFTC, qui a proposé aux camarades maghrébins d'utiliser les aires de repos comme lieu de prière. Nous avons dénoncé ça. C'est une question de dignité et de liberté pour qu'ils puissent, comme tout le monde, pratiquer leur religion.
Ouais !
Et sur cette question-là, nous tiendrons jusqu'au bout, il faudra bien que la direction, elle vous donne un lieu de prière comme dans les autres entreprises.
Ouais !
Dernier extrait du film de Claude Blanchet, Aya. C'est quand même étonnant là, sur la CGT qui fait en la matière surenchère sur le très chrétien et donc un peu écuménique syndicat CFTC.
Oui, je crois que c'est très très bizarre, c'est tout à fait paradoxal. Vous avez dit tout à l'heure, on n'avait pas vu ça. Et je pense que la formule est très très juste, c'est-à-dire que ça existait. Le fait que parmi ces ouvriers musulmans, dont une partie sont musulmans, il y avait l'idée de demander quelquefois, de souhaiter pouvoir prier décemment, ça existait et ça n'était pas vu comme un problème. Et là, on a quelque chose de bizarre, puisque c'est exact, comme vous l'avez dit, un Français peut-être laïque, etc., mais qui insiste très lourdement. Et d'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'il y a un enthousiasme répondant à son insistance à lui. Il y a quelques applaudissements, mais relativement discrets sur ce sujet. Ce n'est pas une revendication extrêmement forte dans le mouvement.
Enfin, on n'avait pas vu beaucoup cette revendication, elle n'est pas extrêmement forte. On n'avait pas jusqu'ici l'habitude d'utiliser le mot « immigré » avant le mot « ouvrier ». Va s'ouvrir un moment singulier après la victoire, parce qu'il y a une victoire et chez Talbot-Poissy et chez Citroën-Aulnay, où une sorte de triangulation se met en place. La direction, ce qui reste des syndicats indépendants, la CGT qui monte en puissance. Il va y avoir des délégués de chaîne qui vont avoir une importance particulière dans ces années 82-83, après les grèves.
Tout à fait, c'est une époque, en gros, ça fait comme... Je crois que la dirigeante de la CGT dit que les ouvriers sont à cette époque-là ivres de liberté. Et à la fois ils acceptent de revenir travailler sous l'autorité de leur chef et à la fois ils refusent totalement toutes les modalités d'autorité qu'il y avait avant. Ils contestent assez fortement et assez largement.
Et patatras, voilà que ce qui n'était pas non plus bien vu... La difficulté de l'industrie automobile française éclate en pleine figure aux yeux, aux dirigeants et aux employés et aux ouvriers. On parlait de la concurrence du Japon, mais on se disait qu'on allait pouvoir la contrebattre. Et en réalité, le groupe PSA est en difficulté très grande, de même d'ailleurs que Renault, en 82-83. C'est le moment où Jacques Calvet commence à avoir des responsabilités importantes dans le groupe et il se dit on va tailler la branche morte, là, on va tailler Talbot. Ça marche pas très bien, les Talbot.
Il menace de le faire. Au moment où les relations se tendent, les deux groupes maintenant, puisqu'il y a deux groupes en France désormais, les deux groupes perdent des milliards chaque année. Et quand Calvet, qui est un patron, qui se veut patron de choc, engage un bras de fer avec le gouvernement qui est un gouvernement de gauche qui n'a jamais accepté des licenciements massifs.
Avec un ministre communiste de l'emploi.
Voilà, voilà.
Jacques Ralite qui dit qu'il est habitué à être toujours installé dans une seringue.
Et donc Jacques Calvet, pour emporter un assentiment, menace de fermer complètement la partie Talbot et prend des dispositions juridiques pour pouvoir impressionner le gouvernement.
Il faut évoquer cette dernière grève qui va suivre, dernière grève pour l'émission, décembre 83, janvier 1984, parce que c'est une grève à Talbot-Poissy, vous le racontez dans l'article d'Alternative économique, qui est en désordre et où toutes les cartes sont rebattues et où apparaissent des thèmes qui sont dominants maintenant, aujourd'hui.
Oui, c'est une grève contre les licenciements, avec, comme souvent dans ces cas-là, des ouvriers qui croient à la grève, des ouvriers qui commencent à ne plus y croire, des ouvriers qui se disent peut-être qu'il faut négocier un magot. Et une forme du magot que certains envisagent de négocier, c'est l'aide au retour, thème que le gouvernement a relancé. Et donc on a des ouvriers immigrés qui disent nous voulons pouvoir, contre la CGT, nous voulons pouvoir obtenir une aide au retour.
Alors d'un côté il y a les immigrés avec leurs objectifs, de l'autre côté il y a la CGT, ce ne sont pas nécessairement les mêmes. Il y a des ouvriers qui ont vu affluer les immigrés et qui n'ont pas nécessairement les meilleurs rapports avec eux. Et quand la grève se termine, c'est vrai qu'on a entendu jaillir des ateliers de Talbot, des cris du genre les Noirs au four, les Arabes à la Seine.
Oui, des journalistes l'ont entendu et l'ont noté.
Mais Jacques Julliard dit que le peuple n'est pas naturellement de gauche.
Ça, c'est d'un idéalisme tout à fait caractéristique. Il faut des intellectuels pour apporter l'intelligence.
La marche des beurs a lieu en même temps avec des jeunes gens qui ne rencontrent pas nécessairement le monde des ouvriers immigrés.
Non, ils en sont les fils et ils ne les rencontrent pas tout à fait. Les médias ne voient pas du tout la jonction possible entre ces jeunes qu'il faudrait faire rentrer dans la société et les immigrés qu'on se met à désigner comme musulmans.
Merci à vous, Nicolas Hatzfeld. Alternative économique, c'est un média qui voit peut-être ce que les autres ne voient pas. Mathieu Vidard. Quel est votre programme dans la tête
Jean,
au carré?
Nous allons voir ce qui se passe dans la tête du Dalai Lama lorsqu'il médite, la méditation vue par la science.
Eh bien, quelle ambition! L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec Pierre-Yves Deroulin, la préparation Ilinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard. Lundi 16, la séance est de nouveau ouverte à nos auditeurs, gratuitement, au Vieux Colombier, à Paris, à 20h. Restitution de deux grands débats parlementaires, l'un sur la loi sur le sacrilège de 1825, l'autre sur la devise républicaine de 1848. Vous vous reportez à notre site et toutes indications vous sont données sur la marche à suivre. C'est simplement un coup de fil qu'il faut donner.